ce ne sont pas les tragédies qui manquent sur Terre. Et ceux qui sont directement touchés ont besoin de beaucoup de réconfort. Le message du psaume 91 est tout à fait indiqué pour cela. Alors que le précédent est tout imprégné de mort. Celui-ci est un hymne à la vie. C'est un psaume qui célèbre la protection et la paix du cœur que l'Éternel accorde à ceux qui se confient en lui. Même au milieu de grandes détresses, le croyant trouve en Dieu la sécurité quand il cherche en lui son refuge. Ce psaume messianique, cité dans le Nouveau Testament, est anonyme, mais il a probablement été rédigé en temps de malheur. Il appartient de fait à toutes les époques, car à un moment ou à un autre, tôt ou tard, le croyant sera confronté au malheur inhérent à la vie. Je commence à lire le psaume 91. Assis dans la retraite secrète du Très-Haut, il est logé à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, « L'Éternel est mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. » Psaume 91, les versets 1 et 2. Cette introduction résume toute la pensée du psaume. La sécurité du fidèle dépend d'abord de la nature de Dieu et ensuite de sa foi en lui. Mais en réalité, seul Jésus-Christ demeurait continuellement à l'abri du Tout-Puissant. Mon problème est que je n'y vais que de temps en temps, un peu comme à l'hôtel, et puis je m'en vais. Je continue. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son aile et, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa vérité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre ni terreur la nuit, ni flèche qui vole durant la journée, ni peste rôdant dans l'obscurité, ni la destruction qui frappe à midi. Psaume 91, les versets 3 à 6. Le filet représente les actions visibles, la peste, les actions invisibles, et l'oiseleur, les machinations humaines. L'aigle, le plumage, le bouclier et l'armure dénotent la sécurité. Dans le texte hébreu, la destruction représente des forces démoniaques. Le croyant est protégé contre quiconque et quoi que ce soit, de jour comme de nuit, dans la mesure où il se conforme aux préceptes de la parole de Dieu, qui est la vérité et qui lui dicte comment se comporter. Je continue. Qu'un millier tombe à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux, et tu pourras contempler le châtiment des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'atteindra. Nul malheur t'approchera de la tente où tu demeures. Psaume 91, les versets 7 à 10. Ce passage étonnant rappelle les deux déclarations paradoxales que Jésus a faites à ses disciples, que nous rapportent les évangiles selon Luc et selon Jean. Je les cite. « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et d'écraser toutes les forces de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous faire du mal. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais courage, moi j'ai vaincu le monde. » Luc chapitre 10, verset 19, Jean chapitre 16, verset 33. Il faut quand même dire que les hommes pieux ne sont pas systématiquement plus à l'abri que les autres en temps de guerre ou d'épidémie. Je peux être épargné par un malheur, mais tombé dans un autre. Ici ou là, des croyants échapperont miraculeusement au plus grand danger, mais de tels cas isolés ne sont pas une règle. Par contre, tout fidèle qui se tient à l'ombre du Tout-Puissant, sous sa dépendance, ne peut subir aucun mal qui n'entre pas dans le plan divin pour lui. Et même dans la fournaise, le croyant peut expérimenter la paix parfaite qui vient de Dieu. De toute façon, tant que Dieu a une œuvre à me confier ici-bas, je suis immortel. Les promesses de ce psaume sont à prendre avec humilité et obéissance à Dieu. Ce sont les conditions auxquelles tout le cantique est subordonné. Par ailleurs, comme ce psaume concerne d'abord le Messie, Toutes ces promesses se sont parfaitement accomplies pour Jésus. Du fait que son union intime avec le Père était constante, ni tempête, ni complot ne pouvaient faire avancer le moment de sa mort. Il est vrai que lorsque son heure fut venue, toutes les puissances du mal se sont jetées sur lui pour en faire leur pâture. Mais cette injustice a eu lieu avec son plein consentement et dans la volonté de Dieu, ce qui l'a transformé en un acte de justice, source de salut pour tous les hommes. Je continue le psaume. Car il chargera ses anges de te garder dans toutes tes voies, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Psaume 91, les versets 11 et 12. Lors de la tentation de Jésus, Satan a cité ce passage tout en ayant soin de mettre « dans toutes tes voies ». Luc chapitre 4, verset 10. Or, le Christ est venu pour faire les œuvres du Père, c'est-à-dire pour marcher dans toutes ses voies. Si du haut du temple, Jésus s'était jeté dans le vide comme le diable le lui suggérait, il se serait placé hors de la volonté de Dieu. Je continue. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère, et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Psaume 91, verset 13. Ces animaux représentent la force et la ruse. Plusieurs épisodes de la vie de nombreux personnages bibliques, comme le prophète Daniel ou l'apôtre Paul par exemple, relatent un accomplissement littéral de cette promesse dans Daniel chapitre 6 verset 23 et dans Actes 28 verset 5. Je finis le psaume 91. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger, car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse, et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire, je le comblerai d'une longue durée de jours, et je lui ferai connaître ma délivrance. Psaume 91, les versets 14 à 16. C'est la communion du fidèle avec Dieu qui détermine sa sécurité et sa paix dans le malheur. Ces paroles concerne surtout Jésus. Il a connu la mort, mais par la résurrection, il en a été délivré et a triomphé de la mort et de ses ennemis, pour lui-même et surtout pour nous. Nous arrivons maintenant à une série de 9 psaumes qui proclament la grandeur du règne de l'Éternel. Ils ont certainement été composés après le retour de l'exil babylonien. Proche du précédent, par son contenu, le psaume 92 est un cantique de louange et d'adoration qui célèbre la bonté de l'Éternel envers ses fidèles et qui contraste les sorts de l'insensé et du juste. Je commence à le lire. Psaume à chanter le jour du sabbat. Il est bon de louer l'Éternel, de célébrer par des chants le Très-Haut et de proclamer dès le point du jour ta bonté et tout au long des nuits ta fidélité. Sur la lyre à 10 cordes, sur le luth et au son de la harpe. Psaume 92, les versets 1 à 4. L'aurore est le moment idéal pour remercier Dieu de m'avoir donné un autre jour et le soir de m'avoir gardé pendant la journée. Les Hébreux célébraient l'Éternel dans le sanctuaire du temple. Il en serait de même pour toutes les nations pendant le millénium. Mais aujourd'hui, nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, verset 23. Je continue. Que tes œuvres sont grandioses, Éternel, que tes pensées sont profondes. La brute n'y connaît rien. Le sot ne peut les comprendre. Psaume 92, les versets 6 et 7. Les pensées de Dieu sont insondables, même pour le croyant. Mais lui au moins en discerne la grandeur, tandis que le mécréant ne comprend rien de Dieu parce que son esprit borné est en proie aux ténèbres. Il est stupide parce qu'il ordonne toute sa vie autour de fausses valeurs comme les plaisirs de la vie, la bouffe et les loisirs, par exemple. Je continue. Si les malfaisants croissent comme l'herbe, si tous les méchants sont si florissants, c'est pour périr à jamais. Mais toi, Éternel, tu es souverain pour l'éternité. Psaume 92, les versets 8 et 9. Le succès des méchants a pour but de révéler la perversité du mal afin qu'au jour du jugement, il soit visible puis anéanti pour toujours. La fin de l'histoire de l'humanité sera l'humiliation de l'orgueil de l'homme et la suprême élévation de l'Éternel. Je continue plus loin en compressant et je finis le psaume 92. « Tu me remplis de force, je suis comme un buffle. » Tu répands sur moi l'huile parfumée, car les justes poussent comme le palmier, ils s'élèvent comme un cèdre du Liban. Ils seront féconds jusqu'en leur vieillesse et resteront pleins de sève et de vigueur. Ils proclameront combien l'Éternel est droit. Psaume 92, les versets 11 à 16. Ces images évoquent la force et la prospérité durable. Le cèdre résiste à toutes les intempéries, et le palmier à la chaleur du désert. Les Arabes l'appellent l'arbre béni, la sœur de l'homme. Il peut produire jusqu'à 300 kilos de fruits. Majestueux, son diadème de verdure permanente a fait de lui un emblème de victoire et de vie. Le psalmiste envisage ici le futur glorieux d'Israël. Nous arrivons au psaume 93, qui est proche du précédent. Il appartient au chant du règne, car il célèbre la royauté suprême de l'Éternel, une affirmation fondamentale de la foi d'Israël qui se réalisera pleinement quand Jésus-Christ établira son royaume sur terre. Je commence à le lire. L'Éternel règne, revêtu de majesté. Oui, il en est revêtu. Il a noué la puissance autour des reins. C'est pourquoi la terre est ferme. Elle ne peut vaciller. Dès l'origine, son trône est ferme. Oui, tu existes depuis toujours. Psaume 93, les versets 1 et 2. L'Éternel s'apprête à combattre les puissances impies qui ébranlent les bases morales de sa création. Toute opposition sera anéantie, et le règne de Dieu rétablira partout ordre et stabilité. Je continue. Les fleuves ont élevé, ô Éternel, les fleuves ont élevé leur voix. Les fleuves élèvent leurs flots bruyants. L'Éternel est puissant dans les hauts lieux, plus que les voix des grandes eaux, des flots puissants de la mer. Psaume 93, les versets 3 et 4. Les fleuves qui débordent et la tempête en mer représentent les assauts de l'homme révolté contre le règne de Dieu. Mais c'est l'Éternel qui triomphera. Je finis ce court psaume 93. Tes préceptes sont vraiment sûrs. La sainteté orne ton temple, ô Éternel, pour tous les temps à venir. Psaume 93, verset 5. Les principes moraux ont pour but de conduire le peuple de Dieu à mener une vie sainte. Nous arrivons au psaume 94, qui est un appel au secours adressé au juste juge à cause de l'injustice qui règne partout autour du psalmiste. Il a une interprétation dans le présent du psalmiste, mais il prophétise aussi ce qui aura lieu dans les derniers temps pendant la grande tribulation dirigée contre les Juifs. Je commence à le lire en compressant tout au long. Dieu qui châtie le coupable, Éternel, Dieu qui châtie le coupable, intervient. Ô toi, juge de la terre, lève-toi et viens rendre aux orgueilleux leur salaire. Ton peuple Éternel, il l'opprime, ceux qui t'appartiennent, il les opprime. L'étranger et la veuve, il les tue, l'orphelin, il les assassine. Psaume 94, les versets 1 à 7. Au moment opportun, Dieu jugera tous les impies. C'est à lui que appartiennent le droit et le pouvoir de venger le sang innocent, et son châtiment sera terrible. Je continue plus loin. Mais prenez garde, insensés, gens bornés, quand aurez-vous du bon sens? Celui qui a fait l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Celui qui corrige les nations, ne saurait-il pas punir? Celui qui enseigne le discernement du bien et du mal aux hommes, serait-il stupide? Psaume 94, les versets 8 à 10. Le psalmiste s'adresse aux insensés qui croient bien à l'existence de Dieu, mais qui, comme beaucoup de gens, se demandent s'il est vraiment au courant de ce qui se passe sur terre. Étant esprit, Dieu n'a ni oreille ni œil, mais il voit, entend, prends des notes et jugera tout homme. Or, il n'y a que deux endroits qui peuvent servir de dépôt pour mes fautes. Soit je les porte sur moi et je serai jugé, soit j'ai accepté que Jésus les a prises sur lui et je suis pardonné. Je continue. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Elles ne sont que du vent. Psaume 94, verset 11. C'est la conclusion du psalmiste. Ce passage est cité par l'apôtre Paul qui qualifie de folie la sagesse du monde. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 20. Je finis le psaume 94. Il fait retomber sur eux leurs péchés, il les anéantira par leur perversité même. Oui, l'Éternel notre Dieu les anéantira tous. Psaume 94, verset 23. Les impies préparent leur ruine, car Dieu leur fera subir les conséquences de leurs actions. Nous arrivons au psaume 95, qui est un hymne de louange à l'Éternel, un appel aux fidèles à se soumettre à sa souveraineté et un rappel menaçant des fautes passées du peuple. J'en lis quelques extraits. L'Éternel est un grand Dieu. Il est le grand roi au-dessus de tous les dieux. Psaume 95, verset 3. Comme créateur, Dieu est infiniment plus élevé que les forces de la nature adorées par les païens, dont font partie aujourd'hui la plupart des scientifiques. Je continue plus loin. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous endurcissez pas. Vos ancêtres m'ont défié, voulant me forcer la main, bien qu'ils m'aient vu à l'action. Pendant 40 ans, j'ai éprouvé du dégoût pour cette génération, et j'ai dit alors, « C'est un peuple qui s'égare, et qui ne fait aucun cas des voies que je lui prescris. C'est pourquoi, dans ma colère, j'ai fait ce serment. Ils n'entreront pas dans mon repos. » Psaume 95, les versets 7 à 11. Dans le désert, les Hébreux ont choisi de suivre les mauvais penchants de leur cœur. Ayant refusé d'obéir à l'Éternel, ils ne sont pas entrés dans le repos que Dieu leur avait préparé. Ce texte est cité dans l'Épître aux Hébreux. Chapitre 3, verset 15, chapitre 4, verset 7, chapitre 3, les versets 7 à 11, selon l'ancienne version grecque. Nous arrivons au psaume 96, qui apparaît déjà dans le premier livre des Chroniques, chapitre 16, versets 23 à 33. Il appartient à une classe de cantiques qui non seulement annoncent la gloire de l'ère millénaire, mais qui sont eux-mêmes des chants du millénium. Je commence à le lire. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous, gens du monde entier. Psaume 96, verset 1er. Ce cantique nouveau sera chanté par toute l'humanité et par la création tout entière à la gloire de l'Éternel qui régnera sur la terre en la personne de Jésus-Christ, le roi des rois. Je continue avec des extraits. Car toutes les idoles des peuples ne sont que du néant. Alors que l'Éternel a fait le ciel. Célébrez l'Éternel, vous, nations de la terre, célébrez l'Éternel en proclamant sa gloire et sa puissance. Adorez l'Éternel dans l'éclat de sa sainteté, vous, gens du monde entier, tremblez devant l'Éternel. Que le ciel soit en joie et que la terre exulte, que la mer retentisse et tout ce qui l'habite, car il vient. Il jugera le monde selon ce qui est juste. Il jugera les peuples selon la vérité qui est en lui. Psaume 96, les versets 5, 7, 9, 11 et 13. Ce psaume condamne l'idolâtrie sous toutes ses formes. Que ce soit l'athéisme, le déisme, le polythéisme et tous les autres ismes. Ces perversions n'auront plus cours sous le règne du Christ sur terre. Car tout ce qui est contraire à Dieu sera éliminé. Par contre, tous les peuples célébreront l'Éternel et toute la création sera dans la joie. Nous arrivons au psaume 97, qui est proche du précédent. Il décrit la gloire de Dieu lorsqu'il viendra établir son règne en Jésus-Christ. Il rappelle les déclarations des prophètes ou d'autres psalmistes en faisant ressentir le jugement terrible des impies. Il accompagnera ce retour. Je commence à le lire. L'Éternel règne. Ô terre, exulte, îles nombreuses, soyez dans la joie. Autour de lui, des nuées sombres et l'obscurité. Justice et droit sont l'appui de son trône. Psaume 97, les versets 1 et 2. Dieu maintient ses distances vis-à-vis de ses créatures, car, dans sa justice, il devrait les juger si elles s'approchaient trop près de lui. Je continue plus loin. Qu'ils soient confus, tous ceux qui servent de vaines idoles et qui se glorifient de leurs faux dieux. Que tous les dieux devant lui se prosternent. Psaume 97, verset 7. Dans l'Épître aux Hébreux, cette phrase est appliquée à Jésus au moment de sa naissance selon l'ancienne version grecque qui dit « Que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. » Hébreux chapitre 1, verset 6. La grandeur de Dieu et de Jésus-Christ est contrastée avec les idoles. De nos jours, pour nos contemporains, c'est l'argent, le sexe ou les vacances qui comptent avant tout. Je finis ce psaume avec le seul verset qui ne provient pas d'un autre texte biblique. Une lumière est semée pour l'homme juste, et de la joie pour ceux qui ont le cœur droit. Psaume 97, verset 11. Celui qui aime Dieu saura voir la lumière briller sur son chemin, et d'elle naîtra pour lui la vraie joie. Nous arrivons au psaume 98 qui, encore plus que le précédent, exhorte toute la création à louer l'Éternel. C'est d'ailleurs l'un de mes psaumes préférés. J'en lis un extrait. Que la mer retentisse et tout ce qui la peuple, que l'univers résonne avec ses habitants, que les rivières battent des mains, que les montagnes, à l'unisson, chantent de joie. Que tous louent l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Psaume 98, les versets 7 à 9. La nature entière, mer, terre, fleuve, montagne, se joint à l'humanité pour accueillir l'Éternel et pour se réjouir de ce que son règne s'étend dorénavant à tout l'univers. Nous arrivons au psaume 99 qui exalte tout particulièrement la sainteté de Dieu. Le refrain « Car il est saint » est répété trois fois. Il rappelle la louange des séraphins de la vision d'Ésaïe au chapitre 6, les versets 2 et 3. « Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. » Apocalypse, chapitre 4, verset 8. J'en lis un extrait. « L'Éternel règne, les peuples sont dans l'effroi. Son trône est au-dessus des chérubins. La terre tremble, l'Éternel est grand. Il est très haut élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'il célèbre ce Dieu grand et redoutable, car il est saint. C'est un roi puissant aimant la justice. » Psaume 99, les versets 1 à 4. Parce que l'Éternel est immensément grand. Il est digne d'adoration et de louange de la part de toute la création, qu'elle soit inanimée ou dotée d'un souffle de vie.